Je connais des grands-parents qui ont fait des procès à leurs enfants pour avoir le droit de voir les petits-enfants. Ce sont des situations extrêmement douloureuses qu'il faut aborder avec délicatesse et beaucoup de compassion. Des procès en famille, entre parents et enfants. Dans un cas, j'ai fait un témoignage de moralité, j'ai attesté que ses grands-parents étaient des personnes dignes de confiance, à qui on pouvait confier sans crainte des petits-enfants. Quand même pas très engageant. Est-ce que j'ai pris parti ? Non. J'ai rendu témoignage à la vérité. Et pourtant, je suis le premier à dire aux enfants devenus adultes qu'il faut savoir prendre parfois de la distance à l'égard des parents, c'est ce que j'enseigne aux préparations au mariage. La bonne interprétation du commandement « Tu honoreras ton père et ta mère » qui, lorsqu'on est adulte, n'est plus de l'obéissance, n'est pas de la soumission, mais qui est, dans un cas comme dans l'autre, et des deux côtés, une question de respect. Une question de respect. Les enfants concernés dans cette histoire ne m'ont pas pardonné, tout catholiques qu'ils étaient, on refusait tout dialogue. Ça a duré longtemps et ils ne sont même pas venus à l'enterrement de leurs parents. Ce qui ne les a pas empêchés ensuite de faire valoir leur droit à l'héritage. Il y a ce qui est légal, il y a ce qui est moral. Quelle vision est-ce que j'en ai rétrospectivement ? Quelle relecture est-ce que je peux en faire ? Est-ce que je regrette d'avoir témoigné ? Comment est-ce que je peux être sûr de ne pas m'être trompé ? À la lumière de toutes les situations comparables, et vous savez qu'elles sont nombreuses, que j'ai vues, que je vois, je dirais trois choses. Rétrospectivement, ce procès était une erreur. Quand on peut éviter les procès en famille, il faut vraiment les éviter, que ce soit entre ascendants ou dans une fratrie. Il faut les réserver à des cas très spécifiques de violation d'interdit. Par exemple, dans des cas d'inceste, lorsqu'il est nécessaire justement de réhabiliter la loi. Comment savoir ensuite ce qu'il faut faire ? Comment est-ce que je suis sûr de ne pas m'être trompé ? Quel est le chemin, la route à suivre ? Avec l'expérience, la sagesse de l'Église, j'espère l'Esprit Saint, je veux dire aujourd'hui que le critère, c'est l'espérance du pardon. Le désir de réconciliation. Ça ne peut pas être immédiat, ça doit être toujours la perspective, l'objectif. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir de la haine. Et parfois même, il faut passer par la haine pour pouvoir accéder au pardon. Vous avez vu ce fait divers atroce d'un homme qui a violé et tué une adolescente. Lui-même était père de famille. Je pense à ses enfants. Ses enfants, il faudra peut-être qu'ils passent par le dégoût et par la haine pour leur père, pour pouvoir un jour pardonner. Sinon, ils vont se retrouver englués dans la honte et dans la culpabilité. La prière, la messe, sont souvent l'unique façon pour guérir. Priez quand vous avez la haine au cœur. Même, venez à la messe, il faut le dire aux personnes, venez quand même à la messe si vous avez la haine au cœur. Peut-être pas communier, mais venez à la messe. Et c'est important de le dire pour nous. Si nous avons la chance d'être épargnés par de tels conflits, par de telles haines, ne jugeons pas. Ne jugeons pas la présence à la messe, la pratique religieuse de personnes que nous savons dans des très grands conflits. Il faut au contraire prier avec elle, pour elle. Troisième réflexion, renoncer à un procès ne signifie pas abandonner un combat. Il faut que nous soyons cohérents. Nous ne pouvons pas nous opposer aux lois de bioéthique qui veulent priver des enfants de leur filiation, de leur identité. Nous ne pouvons pas subir tous ces mensonges sur l'histoire de l'Église, sur la place de l'Église dans l'histoire, et ne pas nous engager résolument chaque fois qu'on cherche à priver une personne de son histoire. Il y a ceci de stupéfiant dans notre époque, que d'un côté, on souhaite la plus grande transparence, comment on appelle ça, la traçabilité des aliments. Et de l'autre, on pourrait dénier celle des personnes, l'origine de chaque personne. Ce dimanche, dans l'Église, c'est la journée mondiale de prière et de la communication, des communications sociales, avec comme thème cette année, un thème d'actualité, les fake news, les fausses nouvelles. La vérité vous rendra libre. Voilà le titre. Encore, pour toutes ces nouvelles, faut-il en connaître l'origine ? Vous savez, c'est cette phrase très juste. Citez vos sources. D'où ça vient ? Citez vos sources. Je pense souvent, les plus anciens l'ont connu, s'en souviennent peut-être, à feu Jean Edernalier. C'était un journaliste, un écrivain, trublion des années 80. Je pense souvent à lui parce qu'il racontait que quand il était adolescent, pour draguer les filles, il recopiait des poèmes en prose de Baudelaire. Il faisait croire que c'était lui. Chacun ses méthodes de séduction. S'approprier ce qui ne nous appartient pas. Faire croire que c'est à nous. C'est une des plus grandes tentations. C'est la marque même du péché originel. C'est la tactique du diable. Vas-y, prends. Fais comme si c'était à toi. Prends. Et je voudrais aujourd'hui que nous y réfléchissions à partir de la prière de Jésus dans l'Évangile. Nous réfléchissions à cette question simple. À qui appartiennent les enfants ? C'est le sujet, c'est le motif de ces procès entre des grands-parents et leurs enfants. Est-ce que la filiation est avant tout descendante qui donne un droit de regard ? Ou est-ce que la filiation est plutôt ascendante qui donne une clé de compréhension ? Par deux fois, dans ce passage d'Évangile, Jésus dit de ses disciples qu'ils n'appartiennent pas au monde. Et à chaque fois, il ajoute, ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Que lui, Jésus, n'appartienne pas au monde, nous le savons, nous le comprenons. Il est Dieu, il est le Créateur, il est même le Sauveur. Mais nous, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Dit saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 14. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. À qui appartiennent les enfants ? Il me semble que le rituel du baptême des petits-enfants n'est pas suffisamment clair. Dans le rituel du baptême des nouveau-nés, on engage les parents au début, au moment de l'accueil, s'engagent à donner à l'enfant une éducation catholique. Nous disons... Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer dans la foi, lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Souris, alors je traduis, je leur dis, en langage profane, ça veut dire vous l'inscrirez au catéchisme. Alors il sourit, je dis non, ne souriez pas. Oui. C'est une réponse à prendre pour ce qu'elle est, parce que la plupart du temps, nous avons affaire à des parents qui ne considèrent pas que la sanctification du dimanche soit un commandement de Dieu. C'est un commandement, c'est le troisième commandement de Dieu. Mais nous devrions dire clairement que l'entrée dans la famille des enfants de Dieu, c'est ça, c'est beau, l'entrée dans la famille des enfants de Dieu s'accompagne d'autant de droits que de devoirs. Le droit à la résurrection, mais le devoir de réconciliation. Entrer dans la famille des enfants de Dieu, ce n'est pas une sorte d'agrégation, un lien extérieur. Par le baptême, il ne s'agit pas de contracter une sorte d'assurance vie éternelle. Il s'agit d'une véritable appartenance à Dieu, dont l'expression dans l'Écriture la plus forte, c'est « Je serai son Dieu et lui sera mon enfant ». Puis-je vous inviter ces jours-ci à réfléchir à la façon dont vous priez « Notre Père ». Quand nous disons « Notre Père », est-ce que c'est un objectif possessif qui nous engage véritablement? Le dimanche après Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde, le pape François avait commenté dans l'évangile de Saint Jean l'expression de Thomas qui dit, qui s'exclame, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et il avait dit, c'est quand même un possessif que Thomas répète, qui est assez étonnant, comment est-ce que Dieu pourrait-il être à moi? Et il en avait donné un très bel éclairage, il avait dit, « En réalité, quand nous disons mon, nous ne profanons pas Dieu. Nous honorons sa miséricorde, puisque c'est lui qui a voulu se faire notre Dieu. Et nous lui disons, comme dans une histoire d'amour, « Tu t'es fait homme pour moi. Tu es mort et ressuscité pour moi. Et donc, tu n'es pas seulement Dieu, tu es mon Dieu, tu es ma vie. En toi, j'ai trouvé l'amour que je cherchais, beaucoup plus, comme jamais je n'aurais pu l'imaginer. » Dieu ne s'offense pas d'être notre Dieu, notre Père, car l'amour demande de la familiarité. La miséricorde demande de la confiance. Mais la réciproque, l'inverse, comment Dieu peut-il être notre Père si nous ne sommes pas ses enfants? C'est la raison pour laquelle l'Église considère que une vocation, en particulier une vocation sacerdotale, une vocation religieuse, prime, passe avant une obligation familiale. Un moment dans l'Évangile, il y a Jésus qui appelle un homme « Suis-moi ». Et l'homme répond « Laisse-moi d'abord aller enterrer mon père ». Jésus dit « Laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens et va annoncer le règne de Dieu ». Cela suppose que les parents chrétiens envisagent, proposent, encouragent la vocation de leurs enfants. La vocation mariage, la vocation à une vie consacrée. Cela suppose qu'eux-mêmes conçoivent, vivent le mariage comme un chemin de sainteté, qui est un chemin qui conduit vers le Père. Cela suppose que comme Jésus, ils se sanctifient eux-mêmes. Ils se sanctifient eux-mêmes afin que leurs enfants soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. À qui appartiennent les enfants? Ni à leurs parents, ni à la société. À Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui les a créés. C'est lui seul qui a le pouvoir et la volonté de les sauver.